Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et merci pour votre accueil à notre égard, que ce soit notre famille ou les amis qui nous accompagnent. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au livre des psaumes et nous allons lire ensemble le psaume 103, psaume de David. Et donc nous sommes dans un contexte que vous connaissez puisque votre pasteur a commencé il y a quelque temps en arrière une série sur le roi David. Et nous avons également dans le cadre de notre église fait une série sur le roi David, donc... Nous allons lire ensemble un psaume de ce roi et vous reconnaîtrez certainement certains aspects de sa vie que vous avez déjà considérés avec John ces derniers temps. Psaume 103, premier verset de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie du gouffre, qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux fils d'Israël. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Mon âme bénit l'Éternel. Voilà donc ce psaume dans la parole de Dieu, que notre Dieu bénisse sa parole qui sera annoncée maintenant et que l'Esprit de Dieu soit libre d'agir dans nos cœurs, dans nos âmes, et de transformer nos vies à sa gloire. Que la parole de Dieu agisse aussi dans les cœurs des enfants donc, qui sont à l'école du dimanche. Quand j'ai dû choisir un texte pour finir la vie de David, dans laquelle vous vous trouvez donc à l'heure actuelle, j'avais de la peine à savoir exactement quel texte prendre. Est-ce que je prenais un texte relatif aux derniers jours de David, au moment donc où il affirme que c'est Salomon qui lui succédera, etc., sa vieillesse. Et j'étais un petit peu emprunté, et finalement, j'ai choisi ce psaume, comme dernière prédication de cette série sur David, pour tout simplement laisser la parole à David dans ses derniers jours, parce qu'il semble que David, dans ce psaume 103, arrive au crépuscule de sa vie et jette un regard rétrospectif sur celle-ci, sur son existence, sur la vie de façon générale, non seulement la sienne, mais aussi celle de son peuple. Et le constat que l'on peut faire dans ces quelques versets, c'est que David, âgé, regardant en arrière, loin d'être aigri, loin d'être découragé, loin d'être accablé, loin d'être nostalgique devant le constat que finalement la force qui était la sienne autrefois a disparu, eh bien David, au contraire, considère, au crépuscule de sa vie, je le répète, que Dieu a été bienveillant et bon jusque-là. Et ce n'est pas à un homme triste et accablé, finalement, de se dire qu'il a peut-être perdu du temps, qu'il va maintenant mourir ou quitter ce monde auquel nous avons affaire, mais à un homme qui se réjouit et qui dit, qui écrit plus précisément, « Mon âme bénit l'Éternel et que tout en moi bénisse son saint nom. » Donc il est exhorté en regardant en arrière, jusque-là, jusque peut-être à l'heure qui précédait l'écriture de ce psaume, combien l'Éternel a été bienveillant. Et quand on considère attentivement ce psaume, on voit que dans cet élan d'adoration, eh bien, il mobilise, David mobilise tout son être intérieur, c'est-à-dire son intelligence, ses sentiments et sa volonté. Son intelligence, pourquoi ? Parce que dans ce temps d'adoration, au cours duquel il demande à son âme de bénir l'Éternel, eh bien, intellectuellement, il se remémore, peut-être pas toutes les étapes, mais beaucoup d'étapes de sa vie, et il voit combien, dans toutes ces étapes, Dieu a été fidèle. Il se remémore donc sa vie, il se remémore les grandes étapes de sa vie, il voit que Dieu a été fidèle, et là ses sentiments rentrent en ligne de compte. Et ceux-ci sont enflammés par cette si grande fidélité de Dieu dans toutes les étapes de sa vie. Même parmi les plus, ou dans les plus difficiles étapes qu'il ait pu connaître, lorsqu'il était assailli par Saül, lors de son péché avec Bathsheba, le crime contre Uri, etc. En tout cela, Dieu a été fidèle, même quand Dieu a dû le corriger, et ses sentiments donc sont enflammés par cette fidélité de Dieu. Et sa volonté, en dernier lieu, j'ai parlé de son intelligence, ses sentiments qui sont impliqués dans cette adoration, et sa volonté, en dernier ressort, ou pour terminer, sa volonté s'appuyant sur la fidélité de Dieu, s'appuyant sur ses sentiments qui sont exaltés, eh bien sa volonté s'engage à nouveau à servir Dieu pour le temps qui lui reste à vivre ici-bas. Il se reconsacre tout à nouveau à l'Éternel. Quelqu'un a écrit ceci sur ces versets. « Toutes ses facultés font entendre une symphonie de louanges dans laquelle aucun instrument ne restera muet. » C'est intéressant, n'est-ce pas ? Une symphonie de louanges dans laquelle, de la part de David, aucun instrument ne reste muet. Alors, mes amis, permettez-moi d'être très concret déjà ce matin dans cette introduction, en vous rappelant que l'objectif premier de l'homme est de glorifier Dieu. C'est notre objectif premier, de glorifier Dieu. Et le catéchisme de Westminster, le petit catéchisme de Westminster, dit dans son premier article que c'est notre but premier de glorifier Dieu et de trouver en lui notre bonheur éternel. Et c'est exactement ce que fait David dans ce psaume 103. Alors, comment adorer Dieu ? Comment glorifier Dieu ? Comment trouver en lui notre bonheur éternel ? Nous le voyons dans ce psaume, et la recette en est particulièrement simple. Il s'agit tout simplement de prendre du recul dans nos vies, de prendre du recul seul, personnellement. On peut le faire aussi en famille, on peut le faire aussi en église, mais là, prenons David, seul, il prend du recul, il se remémore tous les actes de bienveillance de Dieu à son égard, et là, il glorifie Dieu, et il trouve en lui son bonheur éternel. Est-ce que vous avez de la peine à glorifier Dieu et à trouver en lui votre bonheur ? Si vous avez de la peine, la solution, elle est présentée ici. Et je vous invite, si tel est le cas, bien entendu, si vous avez de la peine à glorifier Dieu, eh bien à prendre du temps avec lui. Si vous avez la grande chance de pouvoir vivre pas très loin de la campagne, eh bien partez, prenez votre chien, votre chat, que sais-je, ou vous partez tout seul avec vos baskets, marchez et parlez à Dieu. Et reprenez tout le cours de votre vie et voyez combien Dieu a été fidèle. Et vous pourrez dire, en considérant votre vie, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Si vous êtes pas loin de la si vous êtes près de la campagne, faites-le. Si vous êtes loin, prenez votre voiture. Sinon, trouvez un endroit, un lieu secret, comme le Seigneur nous le demande ou nous le dit en Matthieu chapitre 6. Repassez donc toutes ces étapes dans votre mémoire et considérez combien Dieu a été fidèle. Vous serez étonné de voir la fidélité et la bonté de Dieu à votre égard. Et vous verrez qu'en repassant cela, comme le fait David, vos sentiments seront exaltés à l'égard de Dieu et votre consécration pour lui sera vraiment renouvelée. Et vous n'aurez qu'un désir, c'est de parler de lui à tous ceux qui vous entourent, à vos proches et à ceux qui sont peut-être vos collègues de travail, votre famille, etc. Voilà, ces quelques mots d'introduction étant posés, eh bien, je vous invite à considérer maintenant plus attentivement les échos successifs de la fidélité de Dieu, non seulement à l'égard de David, puisqu'il va parler tout d'abord de la fidélité de Dieu à son égard, mais aussi de la fidélité de Dieu à l'égard du peuple d'Israël, donc David a été le roi de ce peuple, mais aussi de la fidélité de Dieu à l'égard de l'humanité en général, et plus précisément peut-être de ceux qui le craignent. et de la fidélité de Dieu même jusque dans les lieux célestes, jusqu'au ciel où il règne. Et David invite les anges à la fin de ce psaume à bénir l'Éternel comme il le fait. Alors le titre de ma prédication est celui-ci, un testament de reconnaissance envers Dieu. Un testament de reconnaissance envers Dieu, et comme toute bonne prédication, j'ai 3 points. Alors, je ne sais pas si John en a à chaque fois 3. Enfin, ça, c'est pas... Oui ? Oui, assez souvent. Peut-être plus même, des fois. Alors, le premier point, reconnaissance de David pour la bonté de Dieu envers lui. Le deuxième, reconnaissance de David pour la bonté de Dieu envers son peuple. Et enfin, le troisième point, reconnaissance de David pour la bonté de Dieu envers l'humanité. Ou on pourrait dire envers ceux qui le craignent aussi. Donc, reconnaissance de David pour la bonté de Dieu envers lui. Ce sont les versets 3 à 5. Et vous allez voir que David va souligner 3 grands domaines dans lesquels Dieu a particulièrement été fidèle à son égard, lorsqu'il repasse donc les bontés de l'Éternel pour lui. Et il commence premièrement à montrer combien Dieu a été fidèle lorsqu'il l'a soutenu et secouru dans les souffrances morales qu'il eut à subir, ou ces souffrances morales qui ont assombri son existence et dans lesquelles Dieu l'a délivré. Alors, la question qui se pose, mais quelles sont ces souffrances morales qui ont accablé ainsi David et dont il a été délivré ? Et peut-être que dans le cours des prédications de ces dernières semaines, de la part de John, dans la vie de David, vous vous dites, mais c'est certainement lorsque Saül a accablé ainsi pendant des années David pour l'éliminer afin qu'il ne devienne pas roi. Eh bien, détrompez-vous, le texte ne nous parle pas de cela. Il nous parle plutôt de la délivrance de David, ou plus précisément de la délivrance de Dieu à l'égard de David, ou de la délivrance des péchés de David, pardon, de la part de Dieu. Puisqu'il écrit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes. David ne regarde pas d'abord en quoi il fut victime et comment Dieu le délivra de ceux qui l'assaillirent, comme Saül par exemple, ou les Philistins ou que sais-je. Il considère d'abord son propre péché dont il a été délivré par Dieu. De façon générale, certainement, son péché, sa nature pécheresse, mais peut-être aussi de façon plus précise concernant le péché d'adultère qu'il commit avec Bathsheba et le meurtre également qu'il commit en faisant éliminer Uri, le mari de Bathsheba. Je le répète, certainement de façon générale, mais peut-être et sûrement de façon plus précise à propos de cet adultère et de ce meurtre. Souvenez-vous effectivement que David, après avoir commis cet adultère, après avoir fait périr Uri, et je sais que vous le verrez, je crois, avec John prochainement, eh bien David, avant de reconnaître, de confesser son péché à Dieu, pendant en tout cas au moins, semble-t-il, 1 année, se tut devant l'Éternel. Et que se passa-t-il pour David ? Eh bien, son âme était au supplice, puisqu'il écrit à propos de son péché ceci. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Voilà l'état de l'âme de David à cause de son péché. Pendant plusieurs mois, il se tut devant l'Éternel, il ne confessa pas ses péchés, et Dieu, par son esprit, s'apesantissait sur David. Il devait confesser ses péchés, et son âme était travaillée, pétrie, écrasée par l'Esprit de Dieu qui voulait qu'il confesse ce péché, qu'il se repente de ce péché. Et finalement, ce n'est que lorsque David se repentit de celui-ci qu'il connut à nouveau la paix avec Dieu, la délivrance du pardon divin. Puisqu'il écrit, ça doit être dans le psaume 32 ou 51, j'ai toujours de la peine à savoir l'un de l'autre, les distinguer, puisqu'ils sont très proches, ils parlent du même épisode. Il écrit ceci, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. » Et écoutez bien, « Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché, et tu m'entoures de cris de délivrance. » Voilà, mes amis, la première raison pour laquelle l'âme de David bénit l'Éternel, pour laquelle il invite, il exhorte son âme à bénir l'Éternel. Il lui a pardonné ses fautes. Il l'a délivré de sa culpabilité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ensuite des conséquences dans la vie de David et dans son règne. Il y en a eu, et des terribles. Mais Dieu l'a véritablement délivré suite à cette repentance. Permettez-moi de vous donner une illustration que j'ai vécue dans la relation avec une personne il y a quelques mois en arrière. J'ai suivi l'année passée une dame qui était en fin de vie, la belle-mère d'une sœur de notre église. Et j'allais voir régulièrement cette femme avant son décès, pendant plusieurs mois. Elle ne craignait pas Dieu. Et lorsque nous parlions ensemble, lorsque nous évoquions les souvenirs de son passé, cette femme était particulièrement aigrie, et aigrie du mal qu'on avait pu lui faire pendant sa vie. Et c'est vrai, c'était une femme qui avait beaucoup souffert au cours de son existence. Mais cette femme était tellement centrée sur elle-même qu'elle était absolument inconsciente de la gravité de son péché à l'égard de Dieu. Elle voyait tout ce qu'on lui avait fait subir, mais elle ne comprenait pas ou ne voulait pas comprendre combien elle-même était bien plus coupable à l'égard de Dieu que ceux qui lui avaient fait du mal, quoique le mal dont elle avait été victime était assez grave. Et mes amis, voilà le grand problème de l'humanité aujourd'hui, le grand problème de l'homme sans Dieu aujourd'hui, c'est qu'il est souvent rempli d'illusions quant à lui-même. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte que le premier démon dont il devrait être libéré, eh bien, c'est son péché. C'est son péché, sa nature pécheresse. Et donc, l'homme sans Dieu continue à vivre replié sur lui-même, continue à se considérer comme une victime, alors qu'il devrait d'abord se considérer comme étant coupable. D'abord se repentir de son péché contre Dieu, à l'égard de Dieu. Et il n'entend donc, puisqu'il se considère comme une victime, puisqu'il se considère donc comme étant abusé, et comme il vit donc replié sur lui-même, il n'entend pas les nombreux appels de Dieu qu'il appelle à la repentance, qu'il l'exhorte vraiment à se repentir et à se confier en Jésus-Christ pour son salut. Alors, qu'est-ce que je dirais en conclusion de ce premier aspect pour lequel l'âme de David bénit l'Éternel? Eh bien, c'est que la première des bontés de l'Éternel que nous devrions régulièrement repasser dans nos mémoires, dans notre vie, eh bien, afin de l'adorer, c'est celle de son pardon à propos de notre péché. Ça, c'est la première donc des bontés de l'Éternel dont nous devrions nous souvenir, et particulièrement le dimanche matin. Je dis très particulièrement parce que c'est le dimanche matin que, en Église, nous nous souvenons de l'œuvre de notre Seigneur. Nous prendrons le repas du Seigneur tout à l'heure, la scène, et c'est un moment où nous devrions rendre grâce à notre Dieu pour son pardon. Alors David continue de repasser les bénédictions de l'Éternel à son égard, et la deuxième des choses qu'il considère et qui est intimement en rapport avec le pardon de ses péchés, comme nous pouvons le lire, c'est qu'il l'a guéri de toutes ses maladies. Et David fait très certainement ici référence aux souffrances physiques terribles qu'il a connues à cause de l'endurcissement de son cœur lorsque il gardait ce péché qu'il ne voulait pas le confesser à l'Éternel. Je pense qu'il s'agit d'abord de cela. Et rappelez-vous que David, au psaume 31, cette fois, écrit ceci à l'Éternel. « Fais-moi grâce, car je suis dans la détresse. Écoutez bien, j'ai le visage, l'âme et le corps rongés par le chagrin. » Ma vie s'épuise dans la douleur, ma force vacille à cause de ma faute et mes os sont rongés. David s'endurcit dans son péché. David ne confesse pas son péché à l'Éternel. Et tout son être subit le coup de son endurcissement. Peut-être que ses muscles du dos, des épaules, etc. se sont comme endurcis comme des pierres. Ses ligaments le font souffrir. Il se lève tous les matins et tous les matins ce sont des souffrances physiques toujours plus grande, qui l'accable et qui tombe sur lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien intime entre l'état de son âme et l'état de son corps. Nous sommes, chers frères et sœurs, en tant qu'êtres humains, nous sommes une réalité psychosomatique, c'est-à-dire que nous sommes une âme et un corps ensemble, et il y a un lien intime entre les deux. Lorsque mon âme souffre, mon corps souffre. Lorsque mon corps souffre, mon âme souffre aussi. Et mes amis, c'est à partir du moment où David s'est repenti de son péché que ses os ont arrêté de se consumer en lui et que sa vigueur est revenue, qu'il a cessé de gémir. Et permettez-moi de vous dire que je crois que cette réalité est encore vraie aujourd'hui, que ce soit pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Il y a, je le répète, un lien intime entre la santé de notre corps et notre état spirituel. Ainsi, lorsque la paix de la conscience du pardon remplit une âme, le visage lui-même change. Et bien des souffrances de notre corps dues à l'état de notre âme disparaissent. Alors, ne nous méprisons pas, je ne suis pas en train de dire que toutes les maladies sont dues au péché et que vos maladies, quelles qu'elles soient, disparaîtront à cause du pardon de Dieu. Ce n'est pas de cela dont je suis en train de parler. Mais je crois qu'il y a certainement un lien intime, et je pense que c'est de celui-là dont parle ici David dans ce psaume, il y a un lien intime entre notre péché, notre endurcissement, même comme chrétien, et notre état physique. Mais je ne dis pas que c'est exclusivement cela. Et qu'il peut arriver parfois, chez un chrétien, comme c'est arrivé en particulier à David, il nous en rend témoignage, eh bien de souffrir physiquement à cause de l'endurcissement de son cœur. Et d'ailleurs, à propos de ce rapport entre l'état de l'âme et celui du corps, le livre de l'Ecclésiaste, l'auteur de ce livre, écrit ceci. Écoutez bien, c'est très intéressant. « La sagesse de l'homme, écrit-il, et la sagesse de l'homme, c'est d'abord la crainte de l'Éternel. » Alors écoutez bien, « La sagesse de l'homme éclaire son visage et la sévérité de sa face est changée. » Je me rappelle d'un frère, très proche, qui me montra un jour une photo de lui avant sa conversion. On discutait, on témoignait et l'un et l'autre de notre conversion, et il me montra une photo, il me disait, bah, tu vois, c'était l'époque où je baroudais, où j'étais dans des pays, je faisais, le baroudeur, je faisais visiter tel et tel pays. Et j'ai vu la photo de ce frère, et quand j'ai regardé cette photo, que j'ai vu ses yeux, il y avait un endurcissement qui était évident sur le visage de cet homme dans la photo qu'il m'a montrée. Vous me direz une photo, on peut faire dire n'importe quoi une photo. Hein, on le sait, les médias le savent en particulier. Mais ça paraissait quand même, ça m'avait particulièrement choqué. Et l'homme que j'avais à côté de moi avait un regard si doux et si paisible. Alors que Dieu, chers frères et sœurs, nous accorde de savoir confesser nos péchés en tant que chrétiens. Et dans ce sens, de savoir examiner régulièrement nos vies devant Dieu. Et de ne pas nous endurcir. Continuons sur le regard ou le coup d'œil rétrospectif de David à propos de la fidélité de Dieu envers lui. Alors c'est très intéressant parce qu'ensuite, après avoir parlé de ce temps de délivrance, il écrit ceci. « C'est lui qui te couronne de bienveillance et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » David est vieux, c'est un vieux roi. Que devons-nous comprendre dans ces lignes ? Eh bien, nous devons comprendre que l'Éternel a en réserve une multitude de grâces et de forces renouvelées pour ses enfants, et en particulier pour ses enfants qui ont vieilli. C'est très intéressant. Il nous parle, et c'est David, ce roi, on s'imagine toujours, on se rappelle toujours de David, puissant, fort, guerrier, conquérant à la tête de ses troupes. Il est en train de dire au crépuscule de sa vie, que Dieu renouvelle les forces de ses enfants, et en particulier lorsqu'ils sont âgés. Rappelez-vous à ce propos du premier psaume, dans lequel le croyant est comparé à un arbre dont le feuillage ne se flétrit pas. Un arbre dont le feuillage ne se flétrit pas. Ce qui signifie que le chrétien, celui qui se confie en Dieu, arrivé à l'automne de sa vie, garde quelque part le charme et l'ardeur du printemps. Le psalmiste, au psaume 92, écrit ceci également. « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. » Écoutez bien, « ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. » Est-ce que ce n'est pas encourageant pour chacun de nous? Alors pour vous qui avez 20 ou 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, c'est encourageant. Mais dès qu'on passe la quarantaine, ah oui, déjà à ce moment-là, on commence à sentir que ça devient difficile, après 50 peut-être un peu plus, et 60. Mais que nous dit l'auteur ici? Il nous dit que Dieu a en réserve des forces, en réserve des bénédictions et des grâces. Il nous parle même, comme en Ésaïe 40, de l'aigle qui rajeunit. Que veut nous dire David? Il veut nous dire que celui qui reste intimement et fermement attaché à Dieu jusque dans sa vieillesse, malgré les outrages du temps que l'on ressent, garde au fond de lui l'enthousiasme, l'énergie, la force spirituelle de ses jeunes années chrétiennes. Et mes amis, c'est une évidence. Je vous parle en tant que pasteur. Cela se vérifie. Vous avez des aînés parmi vous, nous en avons aussi dans notre Église et nous en avons beaucoup. Leur force physique baisse, c'est indéniable. Parfois, leur mémoire leur fait défaut aussi. Mais une chose est certaine, c'est que chez beaucoup d'entre eux, sinon même chez tous, il y a encore aujourd'hui, je me pense à un frère qui a 88 ans, bientôt 89 dans notre Église, il y a toujours spirituellement cette force qui le caractérisait autrefois, cette joie qui le caractérisait autrefois, et peut-être même plus encore cette fraîcheur et une force bienveillante. Et nous avons besoin de ces frères et sœurs. Nous avons besoin de ces aînés. Nous en avons besoin en Église. Parce que c'est souvent des hommes et des femmes qui ont été pétris par la vie. Dieu les a formés, les a travaillés. Et il en a fait comme des chaînes. Et nous avons besoin de chaînes dans nos églises. Parce qu'il arrive parfois que dans nos églises, nous passions par des temps d'épreuve. Et je parle vraiment d'un point de vue ecclésial. Par des temps d'épreuve. Et dans ces temps d'épreuve, nous avons besoin de ces chaînes verdoyants, certes vieux, mais verdoyants, auprès desquels nous trouvons la stabilité dont nous avons besoin. Alors que Dieu bénisse nos aînés et tire en bénéfice de leur foi, de leur expérience, parce que ça c'est quelque chose qu'en tant que jeune, qu'on ne peut pas acquérir d'un coup, ça vient avec le temps, et prions pour eux, que Dieu les garde et les bénisse. Donc, je résume, premier point, David a regardé en arrière. Dieu l'a délivré de ses péchés. Dieu a délivré son corps aussi des souffrances qui étaient intimement liées à ses péchés. Et Dieu, jusqu'à son vieil âge, l'a gardé et a renouvelé ses forces et ses grâces. Et on le voit encore très fort, hein, quand il, d'un point de vue spirituel et au niveau de son autorité, à la fin de sa vie, au moment où il doit affirmer que c'est Salomon qui prendra la suite. Et voilà donc les raisons pour lesquelles David bénit l'Éternel. Alors allons un peu plus loin et passons au deuxième point, si vous êtes toujours avec moi, malgré ou bien que vous n'ayez pas eu de café ce matin. Alors reconnaissance de David pour la bonté, ça va José ? Pour la bonté de Dieu envers son peuple, ce sont les versets 6 à 14. Alors voilà, David a regardé sa vie, a jeté un coup d'œil rétrospectif sur celle-ci, et puis maintenant il ouvre un peu plus. Il élargit le spectre de son regard et il l'élargit au peuple dont il a été le roi, au peuple d'Israël. Et il constate, là encore, que Dieu a fait preuve d'une bonté extraordinaire et il bénit l'Éternel pour la bonté de Dieu à l'égard du peuple. Pourquoi ? Parce que dans les versets 6 à 8, il fait référence à l'Éternel qui entendit les cris de son peuple qui souffrait sous le joug égyptien. Il se souvient, il revient en arrière, comme souvent les prophètes, d'ailleurs, souvent dans l'Ancien Testament, on voit les auteurs sacrés, on voit les Hébreux se souvenir de la délivrance de ce peuple d'Israël de la part de Dieu du joug égyptien. Dieu, en vertu de l'alliance qu'il avait passée avec Abraham, on pourrait déjà remonter à Adam et Ève, mais on va dire à Abraham, Genèse 15, Genèse 17, avec Isaac, avec Jacob, s'est souvenu de son peuple et l'a délivré lorsqu'il était sous le joug des Égyptiens, au moment voulu, déterminé par lui de toute éternité. Et non seulement il l'a délivré, l'a fait passer par la mer Rouge, mais ensuite, dans le désert, loin de laisser ce peuple sans loi, sans cadre, eh bien, comme nous le dit encore David dans ses versets, il lui a donné un cadre, il lui a donné une loi. Nous avions là un peuple d'à peu près 1 500 000 personnes qui étaient seules dans le désert, qui n'avaient plus la gestion finalement des Égyptiens, le cadre légal des Égyptiens. Il lui a donné un cadre très clair, avec une loi morale, avec une loi cérémonielle. Donc voilà le premier souvenir de David. Tu as été fidèle car tu as entendu le cri de ton peuple. Tu avais fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et tu as continué ton alliance avec Israël. Tu l'as délivré et tu lui as donné le cadre dont il avait besoin. Et tu marchais devant lui, colonne de nuée, colonne de fumée, etc. Mes amis, c'est exactement la même chose pour nous. Dieu nous a délivrés de notre péché, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu. Et Dieu nous a donné une loi. Cette loi nous conduit à la repentance et la foi, la loi morale de Dieu. Mais cette loi, elle est toujours présente. Aussi pour que nous sachions la mettre en pratique ensuite. Et nous devons apprendre à obéir à la loi de Dieu et à continuer de vivre selon la loi de Dieu dans les différents cadres d'application qui sont ceux de cette loi. Et surtout dans un monde désertiquement spirituel, pardonnez-moi l'expression si elle est fausse, mais vous comprenez le sens, comme celui dans lequel nous vivons. La deuxième grâce de Dieu à l'égard d'Israël, selon les versets 9 et 10, écoutez bien, c'est très intéressant, enfin comme tout ce texte, c'est que Dieu, lent à la colère, supporta ensuite avec une grande patience les innombrables écarts et infidélités de ce peuple. Il a délivré ce peuple. Il lui a donné une loi, il a pris soin de lui, il l'a conduit, il lui a donné la nourriture dont il avait besoin. Il lui a donné l'eau dont il avait besoin, l'écaille dont il avait besoin ou qu'il désirait lorsqu'il avait faim. Mais ce peuple, régulièrement, très régulièrement, se rebella contre Dieu. C'était un peuple à la nuque raide, nous dit la parole. Et Dieu, donc, fut lent à la colère à l'égard de ce peuple. C'est vrai que Dieu intervint plusieurs fois. C'est vrai que Dieu dut frapper bien des fois de divers tourments ce peuple afin qu'il revienne à lui. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu n'infligea jamais à son peuple un châtiment proportionnel à son offense. Dieu avait fait alliance avec ce peuple et ce peuple offensait l'alliance de Dieu si souvent. Dieu dut reprendre ce peuple régulièrement de façon très sévère, mais jamais de façon proportionnelle à l'offense. Ce qui fait qu'il se garda toujours dans ce peuple, il se préserva toujours un reste fidèle. Soyons concrets à notre égard. À notre égard, nous concernant. Soyons conscients de la grande patience de Dieu. Dieu vous a délivré de votre péché, grâce lui soit rendue. Dieu vous donne un cadre de vie par sa parole et il vous montre comment vivre aujourd'hui dans la société, grâce lui soit rendue. Mais vous transgressez régulièrement sa volonté, vous vous rebellez. Je le sais parce que vous êtes comme moi et nous sommes tous les mêmes. Mais Dieu, dans sa bonté, ne vous traite pas selon votre péché. Il aurait journellement de quoi, pour vous comme pour moi, de quoi vous rejeter définitivement. Il aurait journellement de quoi vous dire « race incrédule et perverse », comme l'a dit Jésus à ses disciples, « mais jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Et pourtant, même si la loi de Dieu souvent nous condamne, parce que son esprit éclaire notre conscience et nous révèle la juste indignation de Dieu à notre égard, et que parfois il doit même nous châtier, parce qu'il nous châtie comme un père, néanmoins, il ne nous châtie pas selon ce que nous mériterions sûrement en vertu et certainement en vertu de l'œuvre de Christ. Et ça, j'y reviendrai. Dieu s'occupe de nous comme un père, dans sa bonté. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, écrit donc David. Je suis un père, loin d'être parfait. Mais je peux vous dire ceci, et je crois que vous le savez tous et vous en êtes tous conscients, un père est toujours ému des besoins de ses enfants. Et c'est ainsi que lorsqu'ils ont faim, il va leur donner le nécessaire à manger. Mais un père, selon Dieu, lorsque ses enfants commettent des fautes, eh bien va s'imposer la douloureuse obligation, mais la nécessaire obligation, de châtier ses enfants, de les corriger, pour leur bien. Et écoutez bien, parce que vous l'avez vécu ou vous le vivez, lorsque ses enfants reviennent à lui repentant, que fait un père fidèle ? Eh bien, il court à leur rencontre. Il court à leur rencontre avec des larmes de joie, comme le père du fils prodigue, dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Eh bien, mes amis, voilà exactement notre Dieu. Il sait de quoi nous sommes formés. Il connaît notre faiblesse. Et loin de l'irriter, elle éveille en lui son ardente compassion. Certes, il va lui arriver parfois, si nous nous endurcissons dans le péché, de nous reprendre, mais il use de ménagement à notre égard, dans ses jugements et dans ses corrections. Parce que s'il nous traitait selon notre péché, mes amis, mais il nous briserait irrémédiablement. Pourquoi Dieu peut ainsi faire preuve de bienveillance à notre égard ? Parfois nous corriger, selon Hébreux 12, comme un père corrige ses enfants, mais jamais au point de nous briser. Parce que Christ a supporté sa colère à notre place. Versets 11 et 12 de ce magnifique psaume, écoutez bien. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. comme nous le rappelle David ici au verset 11 et 12, « L'Éternel éloigne la faute de ceux qui se confient en lui. » Voilà, mes amis, pourquoi Dieu peut nous traiter, pourquoi notre Dieu peut nous traiter comme des enfants, comme ses enfants, avec bienveillance. Parce que son jugement est tombé sur Christ, il ne nous juge, il ne nous condamne pas et ne nous châtie pas exactement selon ce que mériteraient nos péchés, parce que le jugement est tombé sur Christ. Il lui arrive de nous corriger, mais comme un père corrige ses enfants avec bienveillance, et il limite sa colère à notre égard. Écoutez bien, à propos de ces versets 11 et 12, ce que quelqu'un a écrit, il a tellement bien écrit et si mieux que moi que je trouve intéressant de vous le lire. Écoutez. « La distance de la terre au ciel peut seule donner une idée de la grandeur de l'amour divin. » Ces lumineuses profondeurs de la voûte céleste que nul ne peut sonder sont bien l'image de l'amour divin, si vaste et pourtant si proche. Il continue. Tout aussi exacte est la comparaison suivante qui nous dépeint la manière radicale et définitive dont Dieu éloigne de nous nos iniquités. En effet, l'Orient et l'Occident ne sont pas séparés par un intervalle mesurable, mais des directions opposées. Ainsi, si loin que nous allions dans le temps, jamais le châtiment de nos iniquités ne nous atteindra plus. Si vous voulez réentendre ce que je viens de dire, alors écoutez-le sur Internet. C'est magnifique. Vous demandez-moi les références, je vous les trouverai. Permettez-moi de résumer ce deuxième point. Nous avons vu tout à l'heure, premier point, les grâces de l'Éternel à l'égard de David, raison pour laquelle il bénit l'Éternel. Et nous venons de voir maintenant les différentes grâces de Dieu à l'égard d'Israël. Il a entendu les cris de son peuple sous l'opprobre ou sous l'oppression de l'Égypte. Il a couru à son secours, il a délivré, il lui a donné un cadre propice pour sa vie. Et lorsque ce peuple si souvent s'est rebellé, Dieu l'a corrigé certes, mais jamais autant qu'il aurait dû le corriger. Et nous avons vu combien Dieu nous a délivrés de notre péché, le cadre qu'il nous donne, et il ne nous traite pas selon nos péchés. Voilà la raison pour laquelle ce matin, aujourd'hui, régulièrement, nous devrions nous aussi bénir l'Éternel. Troisième et dernier point, et c'est le plus court des points. Reconnaissance de David pour la bonté de Dieu envers l'humanité. Ce sont les versets 15 à 18. Alors maintenant, de façon insensible, nous avons vu qu'il a parlé de lui, il a ouvert un petit peu le cadre, il a parlé d'Israël. Et maintenant, David, au verset 15, insensiblement, passe d'Israël à l'humanité en général, ou plus précisément à tous ceux qui le craignent, à tous ceux qui craignent son nom. Et le vieux roi, dans ce verset 15, décrit la beauté, mais aussi la faiblesse de l'humanité en général, et de notre vie humaine, de notre vie d'homme. Et David montre que si au commencement notre vie a le charme, et certainement pour chacun d'entre nous, de la fleur délicate qui pousse dans un champ au printemps, peut-être en montagne, ce charme-là est particulièrement fugitif. La moindre brise, le moindre coup de vent un peu froid et un peu vif, peut vite effeuiller cette fleur. Et puis cette fleur sèche. Et puis cette fleur s'en va. Les pétales, puis tout le reste, la tige, etc. Ce qui fait que finalement, après quelques jours, peut-être après quelques semaines, eh bien, la place qu'elle occupait l'a complètement oubliée. On ne sait plus qu'une si jolie fleur était là, il y a quelque temps en avant, ou quelque temps auparavant. Et un commentateur a écrit ceci à propos de cette fleur. Écoutez bien, c'est très intéressant. Un demi-siècle après notre mort, qui se souviendra de nous ? Donc 50 ans. Si nous repassions dans les rues que nous avons arpentées, si nous visitions la maison que nous avons habitée, mais qui nous reconnaîtrait ? Quand j'ai lu ces paroles, ça m'a véritablement secoué. Parce que ça correspond à ce que je vis régulièrement quand je retourne dans ma ville, je suis d'origine bordelaise, et quand je retourne à Bordeaux, dans ma rue, celle où j'ai couru, celle où j'ai fait du vélo, celle où j'ai si souvent marché avec mon sac au dos pour aller à l'école, pour revenir de l'école, où je me dépêchais pour voir les matchs de mon équipe de foot préférée, j'ai encore les odeurs, les impressions, etc. Quand je retourne dans cette rue, à part une vieille dame qui habite encore dans une maison à côté et qui est proche de la mort, mais personne ne me connaît. Cette rue où mon frère, qui est décédé maintenant, mon frère aîné, faisait de la voiture à pédale, etc. Qui se souvient de tout ça ? Qui se rappelle des Berdoulas ? Personne. Tout oublié. Et ça fait pas 50 ans. Et voilà la réalité, mes amis, de nos vies. Voilà la réalité de votre vie. Mais David, encore une fois, loin de s'abandonner à de telles observations mélancoliques qui pourraient le déprimer, une fois encore, regarde à Dieu. Et pour lui, même si le monde dans lequel nous vivons et dans lequel il vivait est éphémère, il y a une réalité qui, elle, est immuable, qui ne change pas, qui subsiste malgré le temps qui passe, les 50 ans, les 30 ans, les 20 ans. C'est l'amour de Dieu pour les siens. Et il écrit ainsi, « Mais la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent et sa justice pour les fils de leurs fils. » N'est-ce pas extraordinaire ? Dieu, si vous lui appartenez, si vous vous êtes repenti de vos péchés, vous êtes confié en Jésus-Christ, vous connaît de toute éternité et continuera de vous aimer dans l'éternité. Et ici-bas, où que vous alliez, même si vos voisins vous ont oublié, même si votre village dans lequel vous avez vécu tant de choses, etc., dont vous restez encore pétri, mais plus personne ne vous reconnaît, Dieu continuera de vous aimer malgré tout. Notre vie ici-bas est courte, elle est fragile. Mais une chose est immuable et ne varie pas, c'est l'amour de Dieu à l'égard des siens. Grâce lui soit rendue. Mais il y a, comme nous le dit l'auteur, une condition à l'immuabilité de l'amour de Dieu à l'égard des siens, c'est qu'ils demeurent fidèles à l'alliance que Dieu a passée avec eux. En tant que chrétien, mes amis, Dieu a fait alliance avec vous en Jésus-Christ. Il a offert son Fils, il a accompli toute la loi de Dieu pour vous, il est mort sur la croix, il vous a donné sa justice, il a payé le prix de votre condamnation, mais il vous demande une chose, pour que cet amour soit immuable, persévère jusqu'au bout, demeure fidèle. Vous pourrez me dire, mais comment demeurer fidèle? Je suis si faible. Il t'aidera, mais toi, demeure fidèle aussi. Et utilise tous les moyens de grâce qu'il met à ta disposition pour continuer d'avancer, coûte que coûte, contre vent et marée. Il te donnera les forces pour avancer. Je résume avant la conclusion ce troisième point. Nous venons de voir avec David que la vie humaine est fragile, passagère, mais l'amour de Dieu pour les siens est immuable. Et il se poursuivra donc pour l'éternité. Quelle grâce de Dieu à notre égard. Mais apprenons à persévérer. Si vous voulez voir un écrit qui nous parle de persévérance, lisez l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne fait que dire aux Hébreux, attention, n'apostasiez pas, ne rejetez pas la foi, continuez d'avancer, coûte que coûte. Et pour ce faire, continuez de venir ici à l'Église et à vous nourrir de la parole de Dieu. Je conclue ainsi. David a examiné sa vie. David a examiné son peuple. David a examiné l'humanité en général et David a exhorté son âme de bénir l'Éternel pour la fidélité de Dieu, pour lui, pour son peuple, mais aussi pour tous ceux qui craignent son nom. Et maintenant, de façon extraordinaire, c'est comme si Dieu ouvrait le ciel à David. Et il conclut donc son psaume en regardant dans le ciel. Il rentre dans le ciel, presque un peu comme Jean dans le livre de l'Apocalypse où les auteurs à qui Dieu révèle quelque chose d'extraordinaire de sa part. Sous la direction de l'Esprit-Saint, il admire le trône de Dieu qui s'élève au-dessus de tout ce qui existe, monde visible et invisible. Et il voit Dieu sur son trône qui est environné d'une myriade d'anges qui sont dans la gloire et il les invite à proclamer la gloire de Dieu. Ces anges qui sont au service de Dieu, ce Dieu qui a créé toute chose, José nous l'a dit, qui soutient toute chose de sa main toute puissance. Toute puissante. Il les invite donc à bénir l'Éternel pour sa si grande fidélité. Et il continue, non seulement il voit le trône de Dieu, il invite les anges à bénir l'Éternel, mais il invite également toute la création de Dieu, même la nature inanimée, que nous connaissons, que nous voyons nous aussi, de louer le Seigneur. C'est ainsi que les cieux sont invités par David à proclamer la gloire de Dieu. Les astres sont invités par David à entonner des chants d'allégresse à la gloire de Dieu. La foudre, la grêle, la neige, le brouillard, les vents impétueux, même ceux qui sont plus doux, à exécuter la parole de Dieu qui est fidèle. Toutes ces œuvres qui révèlent Dieu sont invitées à le bénir dans tous les lieux de son empire qui est l'univers entier, invisible et visible. Et finalement, il termine avec les mêmes mots par lesquels il a commencé ce psaume, après avoir considéré les bienfaits de Dieu à son égard, pour son peuple, pour les nations, dans le ciel, sur toute sa création. Il termine en disant « Mon âme, bénis l'Éternel ». David est à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, il termine en bénissant l'Éternel. N'est-ce pas extraordinaire? Et ne devrions-nous pas ce matin, mes amis, en ce moment, et maintenant que nous allons prendre ce repas, considérer la fidélité de Dieu à notre égard, à l'égard de notre Église, à l'égard du monde, à l'égard de l'Église, dans l'histoire de l'Église, et dans toute sa création, et bénir à notre tour l'Éternel? C'est la raison pour laquelle nous avons été créés, non seulement, mais aussi sauvés. Que notre Dieu nous accorde de glorifier Dieu et de trouver en lui notre bonheur éternel. Merci pour votre attention. Amen. Sagesse.